Chapitre 8. Cyriane ne pouvait pas apercevoir Aurel sans un pincement au cœur. Bien qu'elle eût opté pour une autre spécialité que lui, physique des particules, il la croisait un peu trop souvent à son goût dans les couloirs de l'école. Lorsqu'il venait à rencontrer le sien, le regard de son ancienne maîtresse exprimait colère, mépris et horreur. Elle avait probablement reçu les résultats de ses analyses de sang. Elle savait qu'on... Son propre mec lui avait administré une forte dose d'un mélange de rohypnol et de MDMA pour la contraindre à des relations sexuelles avec un type qui la répugnait. On pouvait donc parler de viol, un crime dont les auteurs et complices étaient passibles de 10 à 12 ans de prison. Cyriane ne s'en était pas ouvert à Johannes, de crainte de passer pour un faible et de lui fournir un prétexte pour sursoir au dernier moment à son intronisation. Mais il doutait fort que la confrérie des titans eût la capacité d'enrayer la marche de la justice lorsqu'Aurel aurait porté plainte, si elle ne l'avait pas déjà fait. Chaque fois que son téléphone sonnait, chaque fois qu'on frappait à sa porte, Cyriane tressaillait. Les flics pouvaient débouler à tout moment dans sa vie et l'emmener au poste, menottes au poing. D'un seul coup, lui revenaient tous ses conditionnements, les chaînes de l'esclavage selon Johannes. Il avait grandi dans le silence feutré de la grande bourgeoisie de province, celle qui se nourrit de la peur et de la sueur des hommes sans jamais se départir de ses oripeaux humanistes, celle qui met sur la paille plusieurs centaines ou milliers de salariés sans donner l'impression de s'en laver les mains, celle qui fournit en armes les deux belligérants d'un conflit tout en organisant des charters humanitaires pour les survivants. Les parents de Cyriane étaient de ceux-là. Le groupe Natechno fabriquait, entre autres, des missiles à nanotéléguidage et des bombes à phosphore, interdits par la Convention de Genève, mais discrètement commercialisés par les États européens. Tandis que son père vendait ses merveilles technologiques, conçues pour massacrer des milliers d'inconnus, sa mère présidait une association qui expédiait des soignants dans les régions du globe ravagées par les guerres. L'une s'appliquait à réparer ce que l'autre pulvérisait. Il ne lui pardonnerait pas de briser leur harmonie, d'être un fauteur de scandale. L'assommante presse provinciale sautait sur tous les prétextes pour verser dans le ragot et atteindre les tirages de ses confrères spécialistes ex-profanation intime ou des tabloïds anglais. Son père avait eu des maîtresses, sa mère l'avait su, et jamais la moindre dispute n'avait filtré de leur chambre à coucher. Jamais Cyriane n'avait vu sa mère verser une larme ou émettre la moindre plainte. C'est dire avec quel enthousiasme ils accueilleraient une inculpation de leur fils pour complicité de viol. Un coup à être renié, déshérité, et Cyriane, qui avait toujours baigné dans le luxe et la facilité, était battue par la peur soudaine et atroce de tout perdre. Une chose était de se révolter, adolescent, contre un milieu jugé à la fois superficiel et figé, de hurler sa révolte, de claquer quelques portes, de se retirer dans sa chambre pour ruminer des pensées suicidaires. Une autre était de se retrouver banni de son monde, privé de ressources, avec pour seule perspective un enfermement de plusieurs années dans une cellule sordide en compagnie de vrais criminels. Ce salaud de Johannes l'avait foutu dans une sacrée merde. Et puis, le souvenir d'Aurel ne s'estompait pas. Il gagnait en force, en consistance, au fur et à mesure que s'égrenaient les jours, il devenait obsédant, épuisant. Il ne se passait pas une heure sans qu'il pense à elle. Il regrettait amèrement de l'avoir livré sans défense à son parrain allemand, comme il aurait attaché une chèvre à un piquet pour le bon plaisir du seigneur tigre. Il mesurait, maintenant, ce qu'il avait perdu. Il était déchiré, amputé, exposé à la morsure des regrets. Il repoussait chaque instant l'envie de se jeter sur son téléphone, d'appeler Aurel, d'implorer son pardon. Le jour et l'heure du rendez-vous fixé par son parrain approchaient. Cyriane espérait que la cérémonie d'intronisation le délivrerait définitivement de ses chimères sentimentales. Mais il n'y croyait pas. Il avait poursuivi un leurre pendant 2 ans. La confrérie, les titans et leur foutoir initiatique étaient les véritables chimères. Les examens de fin d'année approchaient eux aussi. Les cours s'achèveraient dans 1 semaine. Les étudiants auraient 2 semaines pour réviser, puis ils seraient bouclés pendant 3 jours sous la surveillance des professeurs. Viendrait ensuite la litanie des oraux, des soutenances, les délibérations et enfin les résultats, expédiés directement au domicile des étudiants et de leurs parents. Cyriane ne s'estimait pas prêt. Un échec de sa part serait interprété comme un second scandale et la preuve formelle qu'il n'avait rien à faire dans les sciences. On ne repiquait pas à l'EESS. On était prié de vider les lieux le plus discrètement possible et d'aller tirer sa flemme dans une université publique ou une école de seconde zone. Cyrienne avait réussi à repérer la micro-caméra de surveillance installée dans son appartement. Pas plus grosse qu'une tête de punaise, glissée au-dessus de la porte de sa chambre, enfoncée dans une minuscule cavité, pointée comme un doigt accusateur sur son lit, système Wi-Fi, un petit bijou de technologie relié à sa propre borne Internet. Pendant presque 2 ans, il s'était exhibé sans le savoir sur le réseau comme la plus naze des amatrices s'effeuillant devant une webcam. Aurel et lui avaient la plupart du temps baisé la lumière allumée parce qu'ils aimaient tous les deux jouir du spectacle du corps de l'autre. Mais, même dans l'obscurité la plus totale, la minuscule caméra n'aurait rien perdu de leurs ébats. Il avait brandi son trophée en poussant un rugissement de triomphe, s'était placé devant l'objectif et, puéril, avait baissé son pantalon pour montrer ses fesses au mateur. Il avait ensuite planqué la caméra dans une boîte en carton et enfoui le tout dans un tiroir. S'il voyait encore quelque chose avec ça, c'était que leur matériel était vraiment extraordinaire. Il avait décidé de la garder. Il l'avait payée de ses exhibitions. Elle pourrait peut-être lui servir. Le chantage, après tout, était une source de pouvoir comme une autre. 2 jours plus tard, il reçut un courriel assorti d'une pièce jointe de 40 mégas. Le correspondant avait rédigé le message suivant. « Tes fesses, on les connaissait déjà. Smiley. » Cyrienne ouvrit la pièce jointe, un petit film d'une dizaine de minutes. Il lui fallut quelques secondes pour reconnaître Aurel en gros plan sur l'écran, pas démaquillé. Elle barbouillait de rouge à lèvres le phallus lisse et luisant qu'elle tentait de fourrer entièrement dans sa bouche. Elle le recrachait par instants, secoué de petits spasmes vomitifs. L'image s'élargit et révéla le visage de son partenaire. Contrairement à certains de ses camarades, Cyrienne n'avait jamais filmé ses ébats, et il fut à la fois choqué et fasciné de se découvrir en acteur porno. Celui ou ceux qui avaient expédié le courriel avaient monté le film et relié les différentes scènes par des fondus enchaînés. Il l'invitait à devenir son propre voyeur. Les images l'enflammaient, réveillaient des sensations oubliées depuis peu. Il constata avec dépit qu'Aurel prenait le plus souvent l'initiative, qu'il se contentait de suivre le mouvement avec des gestes hésitants, gauches. La caméra, impitoyable, ne manquait aucune de ses maladresses. Le film s'acheva par l'orgasme tapageur d'Aurel et l'éjaculation saccadée de Cyrienne sur le ventre et la poitrine de sa partenaire, volonté de la maculer de son sperme, la signature d'une œuvre pas aussi brillante qu'il l'avait cru. Cyrienne resta un long moment figée devant son ordinateur, anéantie par ses piètres performances d'amant, ravagée par le souvenir brûlant d'Aurel, conscient que la confrérie pourrait à tout moment diffuser ce bout de film sur le net s'il lui prenait la fantaisie de la trahir. Johannes l'avait prévenu. La confrérie est un ordre secret, un atome. Les titans la placent au-dessus de tout. Les jours s'allongeaient. Des îlots de pâleur subsistaient dans la nuit naissante, peu à peu absorbés par les nuages couleur d'ardoise qui déferlaient en hordes pressées au-dessus de Paris. Temps maussade depuis une semaine, pluie, vent, froid, un printemps ordinaire, pourri. Cyrienne resserra pour la 10e fois son nœud de cravate. Il s'était muni du pistolet nacré de sa mère avant de sortir. Un réflexe stupide, il ne partait pas en guerre contre les titans, il avait la ferme intention de devenir l'un d'eux. Mais l'épisode du film envoyé à son adresse l'avait rendu méfiant, et la présence du pistolet le rassurait. Son exaltation se teintait déjà de désenchantement. Il ne regrettait pas d'avoir passé un impair par-dessus sa veste. Il n'attendit pas longtemps à l'adresse indiquée par Johannes. Le quartier latin n'était pas aussi animé que d'habitude, sans doute à cause du mauvais temps et des examens. Quelques touristes mornes, quelques SDF harassés, quelques voitures aux phares fuyants. Johannes surgit d'une ruelle adjacente, rasée de frais, vêtu de ses éternelles vestes, pantalons, cravates et bottes noires. « Le grand soir est arrivé !» Il entraîna son filleul dans un dédale de ruelles plongé dans les ténèbres. Cyriane contint son envie de lui parler d'Aurel et de l'inculpation pour viol qui pesait sur eux. Il le ferait après son intronisation, quand il serait un titan à part entière et qu'il traiterait d'égal à égal avec Johannes. La pluie se remit à tomber quelques secondes avant qu'il ne s'engouffre sous un porche. L'Allemand pressa les touches d'un digicode rétroéclairé. La porte s'ouvrit avec un double déclic. Ils traversèrent une cour d'immeubles semblable à des milliers d'autres, se dirigèrent vers une autre porte, blindée celle-ci, elle aussi équipée d'un digicode, qui se referma automatiquement derrière eux dans un claquement prolongé. Ils entrèrent dans un hall vide, gravirent un escalier tournant éclairé par des veilleuses disséminées toutes les cinq marches, s'arrêtèrent au premier étage et patientèrent quelques instants devant une troisième porte. Un léger grésillement incisa le silence. Le panneau s'escamota sans un bruit et dévoila, de l'autre côté, un vestibule où deux hommes vêtus de costumes gris surveillaient une dizaine d'écrans de contrôle. Cyriane repéra au passage la cour de l'immeuble et l'escalier que Johannes et lui venaient de franchir. Il n'eut pas le temps d'en observer davantage. L'Allemand le prit par le bras et le conduisit dans une vaste salle. Une centaine de personnes, peut-être plus, s'y pressaient, répartis par petits groupes. Des projecteurs éclairaient une estrade munie d'un pupitre, pour l'instant déserte. Le reste de la pièce baignait dans une pénombre qui empêchait de discerner les visages. Johannes conduisit son filleul près de l'estrade, lui ordonna d'attendre et se fondit dans la foule. Les conversations étaient animées, bien que chuchotées et discrètes. Cyriane retira son imperméable, le posa sur le dossier d'une chaise, resserra son nœud de cravate. Deux silhouettes immobiles près de lui. Il reconnut l'une des filles de son groupe, assez jolie dans la robe noire qui soulignait la finesse de sa taille et l'arrondi de sa poitrine. Il avait déjà croisé l'autre, un garçon d'une vingtaine d'années, dans les couloirs de l'école, mais il ne se souvenait pas lui avoir adressé la parole. Johannes revint vers lui au bout d'une bonne heure. Une heure à se morfondre, à se demander ce qu'il foutait là. Il avait imaginé une cérémonie mystérieuse, empreinte de solennité, vaguement ridicule. Il se retrouvait dans une soirée guindée et ennuyeuse, comme ses parents en donnaient une bonne douzaine par an. « Ça va être à nous. » Johannes l'invita à monter sur l'estrade. Ils s'y installèrent en compagnie des deux autres nouveaux membres et de leurs parrains. Le silence descendit peu à peu sur la salle. Le cerveau embrumé de Cyriane ne retint pas grand-chose de son intronisation. Le discours de Johannes, en figurique comme à son habitude, bourré de références à Nietzsche et à l'homme nouveau, le rappel des mérites du postulant, ses différentes épreuves, rire, applaudissements nourris, ses propres mots effrayants de banalité, la révélation de son nouveau nom de titan, Prométhée, applaudissements tièdes, la promesse de se vouer corps et âme à la confrérie, de la placer, selon les mots de Johannes, au-dessus de tout, applaudissements polis, la sensation déstabilisante d'être scruté, jugé par des dizaines de regards anonymes, les discours des deux autres parrains, des deux autres nouveaux titans, applaudissements enthousiastes pour elle et plutôt maigres pour lui, un hourra général, puis, pour fêter les impétrants, un buffet rapidement pris d'assaut, la farandole habituelle des petits fours, vin, champagne, cigares, le défilé des présentations harassantes, un tel, directeur de la succursale française de la Banque européenne, un tel, responsable du CNRA, un tel, patron d'une chaîne de télé, une telle, la Murène, PDG d'une multinationale dont les activités allaient de l'agroalimentaire à la fabrication des moteurs d'avion. Vous ressemblez à votre mère, je connais très bien votre père, un homme remarquable et si... séduisant, elle en parlait comme d'un ancien amant, un tel sénateur, un tel ancien candidat recalé à la présidence de la République et actuel candidat à la présidence de l'UNESCO, une telle ministre en exercice, un tel préfet en retraite, une telle la sultane, une intrigante originaire du Moyen-Orient, faisant et défaisant les réputations et les alliances, un tel haut magistrat, tous membres actifs de la confrérie. Pique virulente sur les loges maçonniques, leurs tabliers, leurs symboles, leur hiérarchie, leur bavardage futile, pique assassine sur les autres sociétés secrètes, pique vénéneuse sur les cercles vertueux qui gardent comme des spectres grinçants les archaïsmes judéo-chrétiens, pique sur tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dans un camp ou dans l'autre, restent aveuglés par la poussière des siècles. Cyriane, poussée de groupe en groupe, acquiesçant de mouvements de tête pénétrés de gravité, riant de leurs saillies, s'émouvant de leurs compliments, s'émerveillant de leurs promesses. Un tel, commissaire divisionnaire de la police judiciaire, la cinquantaine élégante, qui le prend par le bras, le tire à l'écart et lui dit, les yeux dans les yeux, « Pour ton affaire. »
« Mon affaire ?»«
Ton ex-copine. Elle a porté plainte. » Tressaillement de sirène, qui renverse un peu de champagne sur la manche de sa veste.
« T'en fais pas, ton parrain m'a expliqué ce qui s'était passé. On s'est débrouillé pour qu'elle retire sa plainte.
Comment ?»«
Comment ? Nous avons des moyens de pression, figure-toi. Tu n'as pas reçu un petit film récemment ?»
Sirène se troubla et rougit comme un gosse pris la main dans la boîte de bonbons. Tout Paris se délectait visiblement de ses ébats avec Aurel. Peut-être fallait-il se montrer dans son intimité pour être admis par ses hommes et ses femmes comme l'un des leurs.
« Pas de honte à avoir, » reprit le commissaire avec un petit sourire. « T'es bien foutu, pas mal monté, on a vu nettement pire. »«
Bon, mais t'es pas seul sur les images. Quelqu'un a envoyé le même film à l'adresse email de ta copine en lui disant que, si elle ne retirait pas immédiatement sa plainte, il serait balancé un peu partout sur le net, à ses parents, à l'EESS, à ses amis. Elle s'est présentée le lendemain à la première heure au commissariat pour retirer sa plainte. Tu vois, ce que tu as pris pour une violation de ta vie privée n'était finalement qu'une précaution. Autre intérêt de l'affaire, te prouver que tu peux compter sur l'aide des titans en toutes circonstances. En toutes circonstances. N'oublie jamais ça, Prométhée.
Un beau nom. Je m'étonne que personne n'y ait songé avant toi.
Le commissaire lui donna une tape sur l'épaule avant de se mêler à l'une des grappes agglutinées devant le buffet. Sirène se sentit délestée d'un poids de plusieurs tonnes. Son cerveau retint encore qu'une femme d'âge mûr, une certaine Albane, blonde platine, lèvres refaites, seins refaits, fesses refaites, s'agrippait à lui comme une noyée à une bouée de sauvetage. Comment parvint-il à se débarrasser d'elle ? Mystère. Toujours est-il qu'il se retrouva beaucoup plus tard, à moitié déshabillé dans la rue, avec un Johannes Hilar. Une pluie fine déposait une mantille aux mailles serrées sur leurs crânes et leurs épaules.
« Tu avais le ticket avec cette chère Albane. Elle ne voulait plus te lâcher. »«
Qui sait ? » ?»«
Oh, elle représente seulement plusieurs milliards d'euros. » »«
Si tu t'étais montré un peu plus coopératif, elle aurait été capable de te refiler un million, juste pour le plaisir. »
« Je me vois mal fourrer ma... »«
Tu as tort. Ne te laisse jamais, jamais berner par les apparences. C'est toujours intéressant de compter une femme comme elle dans ses relations. Je t'ai parlé de voyages extrêmes, ultimes, tu te souviens ?»«
Évidemment que je me souviens. »
Johan se s'arrêta malgré la pluie pour dévisager Sirène. Une voiture fila à vive allure, non loin d'eux, en soulevant une gerbe d'eau. Les yeux de l'Allemand brillaient. Deux étoiles dans la nuit. Qu'aucune lumière n'égayait. Est-ce que tu peux trouver rapidement 15 000 euros ?
15 000 ?
Une somme, même pour quelqu'un comme Sirène, mais il avait davantage, bien davantage sur un compte placé qui grossissait à chaque fête, à chaque anniversaire, à chaque examen réussi.
Alors ?
Possible. Johannes eut un sourire carnassier.
« Préviens-moi quand tu seras prêt. Je te garantis un voyage réellement fabuleux. »«
Après les examens, alors ?» Johan se secoua sa chevelure à la façon d'un chien mouillé.
« Tu n'as pas été très brillant ce soir. Tu manquais de feu.
C'est con pour quelqu'un qui a choisi Prométhée pour nom d'initié. Tu crevais de trouille d'être inculpé pour complicité de viol, pas vrai ?»
Johannes lisait en sirène aussi clairement que dans un livre ouvert.
Alors, ne t'en fais pas pour tes examens, ajouta l'Allemand.
Ils marchèrent en silence jusqu'au boulevard Saint-Michel, peuplé d'ombres silencieuses et furtives.
N'aie plus peur de toi, Sirène. Tu es un titan, désormais.